Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
L'idée la plus répandue en matière d'accouchement est qu'il est douloureux, comme on nous le martèle avec le célèbre adage « tu accoucheras dans la douleur ». Marie-Pierre a expérimenté une mise au monde de son enfant dans l'extase, la joie et la sérénité. Elle n'avait au départ aucune idée de ce que serait son schéma de maternité, et c'est un chemin qui s'est dessiné au fil de sa formation, d'abord en tant que médecin généraliste, puis lorsqu'elle s'est orientée vers l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, et après avoir visionné un film qui a balayé toutes ses appréhensions en matière d'accouchement physiologique. Un beau jour, elle découvre sa grossesse surprise et s'oriente naturellement vers une maternité qui propose un accompagnement sans péridurale. Et le jour J, bien décidée à vivre son accouchement rêvé, Marie-Pierre ne se laisse pas déstabiliser par les blouses blanches car elle a elle-même ce statut. Et mine de rien, ça aide à garder le cap même pendant les contractions. Un épisode tout en zénitude et en force qui montre une nouvelle fois qu'accoucher sans médicalisation et dans l'extase, c'est possible. Bonne écoute!
Bonjour Marie-Pierre!
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci. Je salue également les auditrices et les auditeurs.
Alors, tu es médecin acupunctrice et tu viens de sortir récemment le livre « Tu accoucheras dans l'extase ». Et on va donc revenir un petit peu en arrière pour savoir un petit peu comment s'est passée ton entrée dans la maternité. Déjà, est-ce que toi, c'était quelque chose que tu envisageais depuis toute petite? Quel regard tu avais sur la maternité avant de devenir maman toi-même?
Alors, je dirais que la maternité est venue à moi plus que je ne suis venue à elle.
Ouais.
pour plusieurs raisons, enfin plusieurs raisons, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas été entourée de petits enfants quand j'étais petite.
Ouais.
J'étais la dernière de ma lignée maternelle et l'avant-dernière de la lignée paternelle. Ensuite, j'ai fait mes études de médecine. Et même quand je suis passée en stage en pédiatrie, je me suis retrouvée en néonat. Et je m'étais cassé le poignet en faisant du snowboard. Donc même là, je n'avais pas trop accès avec les bébés. La maternité pour moi n'était pas un objectif absolu, c'est-à-dire que je m'envisageais, si j'étais maman c'était bien, mais si je ne le devenais pas, c'était pas grave en fait. J'envisageais même la possibilité d'adopter des enfants ou pas. Ou même peut-être, ce sera peut-être un projet d'ailleurs futur dans ma vie, d'aider des enfants en orphelinat pour les aider à faire des études, voilà, d'avoir ce lien là avec les enfants, mais pas forcément absolument être maman. Donc ça n'a pas été, je suis pas tombée dans la marmite de la maternité et de l'univers des bébés dès la naissance, quoi.
Ouais. Et alors comment es-tu arrivée à...
Alors comment j'y suis arrivée? Ah, par plusieurs chemins qui se sont finalement croisés, entrecroisés et finalement se scindés vers une belle, vers une superbe conclusion. Mais vraiment au hasard, d'abord je dirais que c'était une grande quête de soi, enfin, en l'occurrence de moi, via d'abord la psychothérapie que j'ai entamée à la fin de mes études de médecine, à la fin de l'internat. L'internat est une période particulière, hein, et difficile. Et devant le champ des possibles qui s'ouvrait, j'avais besoin, moi, de... Enfin, ma vie, en tout cas, j'avais besoin d'approfondir, de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Donc, j'ai commencé une psychothérapie que j'ai complétée ensuite, toujours avec une psychologue en psychogénéalogie. Donc là, en fait, la psychogénéalogie, c'est l'étude de notre arbre généalogique en notant les dates de naissance, de décès, de mariage, de nos ancêtres. On essaie de remonter le plus haut possible en ayant évidemment leur nom, prénom également, leur lieu de mariage, enfin voilà, d'avoir toutes ces informations-là, leurs antécédents. Pour recouper en fait et voir quels sont les schémas répétitifs que l'on peut retrouver dans sa lignée. Alors par exemple, comme là on est sur la thématique de la maternité, parce qu'il peut y avoir plein de thématiques évidemment, hein, autre que la maternité, autre que la maladie, ça peut être aussi dans les relations, dans notre profession, enfin voilà. Donc là par exemple, moi ça m'a permis de voir que... Eh bien, dans mes lignées, les femmes n'allaitaient pas. Et je n'avais pas forcément, j'avais pas forcément l'information qu'il y avait eu beaucoup d'hystérectomie aussi, qui est quand même un acte particulier en fait, hein, fait aux femmes, qui avait eu beaucoup d'antécédents d'accouchements difficiles. Qui était retrouvée. Bon, alors évidemment, on en retrouve souvent, c'est sûr, hein, quand chacun recherche. Mais voilà, j'avais déjà ces informations-là et je savais que je ne voulais pas m'y inscrire. Et en tout cas, ne pas être porteuse de ces mémoires familiales qui pourraient s'exprimer à mon insu dans ma vie de femme. Déjà de femme, en fait. C'était déjà qui je suis, moi, en tant que femme. Ensuite, comment est arrivée la maternité? Donc, il y a eu plusieurs champs. Hein. Quand j'ai fini mes études de médecine, je les ai complétées par un diplôme interuniversitaire d'acupuncture, grâce auquel j'ai découvert un tout autre univers. La médecine traditionnelle chinoise est un savoir de plus de 3000 ans, et l'acupuncture est vraiment... une des facettes de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a également la pharmacopée, le qigong, le massage. Et donc l'acupuncture est la partie énergétique. Et ce qui est extraordinaire dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que l'homme est pris en compte, est un récepteur émetteur des énergies du ciel et de la terre. Et ça a été un savoir pour moi et une approche de l'humain totalement différente de ce que j'avais appris durant mes études de médecine. Presque en gros, il me fallait désapprendre tout ce que j'avais appris pendant 10 ans pour pouvoir intégrer, puisque même les organes en médecine chinoise n'ont pas forcément les mêmes fonctions que nous, nos organes, enfin la façon dont on les apprend à la faculté de médecine. En fait, chaque organe en médecine chinoise est relié à un sentiment. Il y a un sentiment qui n'existe pas en médecine chinoise, c'est la culpabilité.
Ah oui.
C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, en même temps de toutes mes recherches, lectures, je découvrais le livre « Femme désirée, femme désirante » du docteur Daniel Flomenbaum, qui est gynécologue acupunctrice. Et du coup, je l'ai contactée, je lui ai demandé si elle était d'accord pour être ma directrice de mémoire d'acupuncture.
D'accord.
Parce que j'ai adoré, en fait, son approche, où elle mettait en avant, justement, toute l'importance de la psychologie et de la gynécologie. L'importance également, d'elle, de la psychogénéalogie. Elle le remettait en avant. Et donc ça a été super en fait de la contacter, et on a choisi comme sujet donc la gynécologie de mémoire, la gynécologie et les méridiens extraordinaires. Et les méridiens extraordinaires en acupuncture, ce sont les tout premiers méridiens qui apparaissent au moment de la conception de l'être. Et au moment où les petites cellules, deux cellules apparaissent, pouf, il y a un jaillissement vertical et ces méridiens extraordinaires vont être la structure fondamentale physique, physiologique, énergétique, psychologique de l'humain. Et en fait, en fonction de l'heure et du lieu où l'on est, on n'a pas forcément les mêmes méridiens extraordinaires prédominants. Là, c'était encore un approfondissement d'un champ de connaissances merveilleux. La gynécologie, la maternité se rapprochaient petit à petit. En parallèle, un de mes profs d'acupuncture m'avait demandé de lire le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel, donc livre qui n'est pas facile à lire, où elle évoque elle parle beaucoup aussi de la Kabbale, des lettres hébraïques, c'est encore un autre univers en fait, avec tout la symbolique que l'on peut retrouver dans le corps humain. Et donc pour mieux comprendre en fait ces connaissances-là et son écriture, parce que quand même, faut être honnête, c'est pas facile à lire, j'ai écouté beaucoup de conférences d'elle. Elle avait écrit à la même période Le féminin de l'être. Donc là, on part vraiment sur l'arbre de la connaissance, Adam et Ève, le serpent, la pomme. Et tac, 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 tac. Entendez-nous, on arrive à nos anathèmes, à tu enfanteras dans la douleur. Et finalement, comment tout ça se croise ? Et en autre lecture, effectivement, il y avait aussi le livre Clarissa Pinkola Estes, Femme qui court avec les loups, qui est particulier aussi à lire. On peut très bien le lire juste petit chapitre par petit chapitre, et puis d'intégrer en fait, par exemple, lire un petit chapitre le soir.
Sans digérer l'info.
Exactement, sans intellectualiser, et puis voir ce que l'inconscient peut en faire. Mais je sais que moi je l'avais lu bien avant d'être enceinte et je me suis en train de nettoyer mon frigo en pleurant par des prises de conscience grâce à certains contes. Et donc ensuite je vais essayer de raccourcir, mais quand je travaillais au Portugal, Je continuais de la thérapie, mais cette fois avec une dame qui travaillait avec les chevaux et qui proposait un workshop femme qui court avec les chevaux, donc forcément ça m'a parlé. je le raconte dans le livre, il y a eu ce moment incroyable où elle nous demandait à chacun de choisir un cheval ou un poney qui avec lequel on avait une attirance. Et puis il y avait vraiment le plus petit poney là, de tout le centre qui me suivait et qui venait toujours me voir. Et bon, à la fin, je dis, voilà, c'est lui qui m'a choisi, faisons équipe ensemble. Et elle m'explique qu'en fait, ben, c'est un bébé, enfin, c'est le plus jeune de tout le centre, et que probablement, s'il venait à moi comme ça, c'est que je serai enceinte prochainement. Et à ce moment-là, c'était pas mon objectif, donc
T'étais en couple à ce moment-là ?
J'étais en couple. On n'habitait pas ensemble, on n'habitait même pas dans le même pays. Mais j'étais en couple. Et effectivement, la maternité surprise est apparue le temps de savoir, un mois et demi après. Et on a décidé ensemble de l'accueillir. Cette maternité et ce bébé.
Comment t'as vécu, toi, cette maternité surprise quand tu t'en es rendu compte ?
Alors, quand je m'en suis rendu compte, on s'en est pas rendu compte tout de suite. J'avais fait des tests, mais c'était ressorti négatif. Et puis, c'est au deuxième tour, donc un peu plus tardivement, quand on s'en est rendu compte. J'étais très fatiguée à cette période-là. Je comprenais pas pourquoi j'étais si fatiguée. Et quelque part, de savoir que c'est parce que j'étais enceinte, alors que j'avais fait plein d'analyses qui étaient absolument normales.
C'est fou, ça. Ouais.
Voilà, la vie était là. Et puis, on était tous les deux, le papa et moi, OK, en fait, avec, avec le fait d'accueillir notre, notre enfant. Je me revois faire le test et être assise et, et regarder le résultat et me dire « Ok ». Par contre, je ne me voyais pas du tout faire ma grossesse seule. Et donc, en fait, moi qui étais installée dans une clinique internationale depuis un an, j'ai décidé donc d'arrêter de travailler là-bas et je suis revenue à Paris.
D'accord.
Et j'ai pris la décision de ne pas retravailler pendant toute la grossesse. Volontairement, parce que comme je suis médecin acupunctrice, je ne me voyais pas du tout repartir comme plusieurs années auparavant, à refaire des remplacements en médecine générale, à me remettre dans le fauteuil de quelqu'un, à être dans une ambiance finalement à risque pour ma santé, pour mon bébé, stressante aussi. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un métier qui est difficile et stressant. Et donc, j'avais pas du tout envie de vivre ça.
Donc là, ton chéri est aussi à Paris ou...
À ce moment-là, oui. Donc, je reviens à Paris et on habite ensemble. Voilà. Et la grossesse... C'est super bien passé.
Ouais. Alors toi, tu étais blindée de connaissances en plus. Là, t'avais, alors, tu connaissais tout le corps humain, toute l'histoire de la procréation. Est-ce que tu as ouvert d'autres livres pendant ta grossesse ou tu as laissé un petit peu le feeling
Alors, à l'époque, on avait moins d'infos, je trouve. On avait moins ces notions de petits films en 3D, en couleur, où aujourd'hui, on peut voir la première cellule et... Enfin, à la limite, si, moi, c'est vrai que je les avais de par mes cours, mais même encore, j'apprends, en fait, aujourd'hui. Je trouve ça génial, en fait. Alors, oui, c'est vrai que sur l'histoire du développement, non, ça, je me suis pas trop intéressée sur le sujet. Donc, en fait, moi, ma première question était de me dire, parce qu'on m'a dit, oh là là, mais t'es à Paris, mais il faut que tu t'inscrives dans une maternité, je sais pas si tu as trouvé de la place. Donc, mon premier questionnement, il était celui-là, en fait, où est-ce que j'accouche ? Et sachant que quand j'étais au Portugal, j'avais rencontré plein de femmes, en fait, qui vivaient... Qui avait vécu partout dans le monde et en fait qui avait accouché à domicile et pour qui c'était normal en fait. Donc j'avais eu plein de témoignages comme ça. Si bien que je m'étais au début plutôt projetée dans cette possibilité d'accoucher à domicile. Sauf qu'en fait c'est juste impossible de trouver une sage-femme, enfin impossible, c'est possible mais c'est très difficile de trouver une sage-femme qui accouche à domicile parce qu'elles ont des assurances privées exorbitantes, donc pour se protéger en fait, enfin, c'est assez compliqué. Et puis en plus à l'époque on habitait dans un petit atelier d'artiste, bon, c'était très sympa, hein, avec un patio commun, avec tout voisin et une cour commune. Mais du coup j'avais peur de ne pas vraiment me retrouver dans une intimité le jour de l'accouchement et que tout le monde boive l'apéro autour de moi en disant ça va aller. Et bon, donc ça, et puis aussi, je crois que oui, bien sûr, j'avais cette idée d'accoucher naturellement, mais c'était pas non plus un objectif total et absolu à atteindre quoi qu'il arrive. Je suis pas une fan de douleur comme les autres, et donc j'avais aucune idée, moi, comment se passerait mon accouchement, est-ce qu'il se passerait bien. Au final, moi, j'avais quand même des échos, même si je les avais travaillés, et puis, enfin, personnels et familiaux, et pas que, quoi. Donc, ouais. Donc on ne sait jamais, en fait, c'est avoir cette unité de dire on ne sait pas non plus. Hein. Et la chance, c'est que il y avait une maternité qui proposait, en fait, des accouchements physiologiques et naturels, donc au Lila, donc c'était pas très loin. Et donc, j'étais tout de suite au Lila m'inscrire et ils m'ont accepté. Et donc, j'étais très rassurée déjà de ça, parce que je savais que j'avais cette option d'un accouchement naturel, mais que si ça se passait mal ou si j'avais mal, enfin, si je ne gérais pas, j'aurais la possibilité d'une péridurale.
D'accord, donc là, tu pars quand même dans l'optique de tester, de tenter l'accouchement physiologique.
Ouais.
Est-ce que tu fais une préparation particulière pour ça? Comment tu...
Pourquoi aussi je pars dans l'idée de l'accouchement physiologique, de par tous les petits chemins décrits. Parce qu'également, au moment où on découvre le bébé surprise, en fait, au-delà du côté bébé surprise, pour moi, à partir de ce moment-là, la vie était en moi. Et c'était fondamental, en fait. Et c'était ce qui était le plus important. D'où l'idée de ne pas travailler. Mais vraiment une notion de sacré, en fait, dans cet accueil. Et tout de suite. Et de par tout le travail antérieur, alors j'ai donné quelques exemples, mais dans la grossesse et également l'accouchement, j'y voyais vraiment un rite initiatique de la femme. Oui, on le sait, t'accouches, tu deviens mère, certes, et c'est une initiation, on est d'accord. Mais dans l'acte de l'accouchement également. Parce que j'avais vraiment conscience qu'on était, enfin que les femmes, mais les hommes aussi, hein, c'est quand même nos partenaires, hein. Enfin, en tout cas, que l'humanité qui a des croyances profondes inscrites et qu'on peut en fait les dépasser. C'est un peu comme l'histoire de la petite grenouille qui veut monter la colline et puis elles sont plusieurs et puis au fur et à mesure du chemin tout le monde leur dit non mais t'y arriveras pas, et puis elles abandonnent toutes, et puis finalement il y en a une qui arrive en haut, tu connais cette histoire peut-être, voilà, et finalement pourquoi elle y arrive, elle est sourde et elle a pas entendu les autres. Et ben c'est un peu ça en fait, c'était de se dire oui, c'était pas l'idée, c'était pas de nier la douleur, puisque sinon je ne serais pas allée en maternité et je ne me serais pas dit j'aurais peut-être besoin de la péridurale, et c'était pas non plus un pari coûte que coûte à avoir avec moi-même. Mais je savais que c'était possible, en fait, de le vivre autrement.
Et comment tu t'es préparée, du coup
Donc, quand je me suis inscrite à la maternité, là, j'ai découvert le chant prénatal, puisqu'ils proposaient des cours de chant, là-bas. Donc, à partir du quatrième mois, j'ai commencé à aller en cours là-bas. Ça, c'était super sympa, parce que c'était toutes les semaines. Alors, les pères sont également conviés, les grands frères, grandes sœurs également. Nous, on était qu'entre femmes à chaque fois. De par mon expérience. Et c'était très doux, très doux et joyeux, en fait, comme moment. La prof, qui s'appelle Marie-Laure Potel, est quelqu'un de très enthousiaste. Et donc elle joue au piano et puis elle nous apprenait aussi des techniques de respiration, comment lâcher la mâchoire, l'importance des sons graves, l'importance de ne pas partir dans les aigus, parce qu'en fait quand on part dans les aigus on se stresse et en fait on ferme la mâchoire et la mâchoire est reliée au périnée, ce qu'on sait aussi en embryologie, donc ce qui est absolument génial en fait quand on recoupe toutes les infos du corps. Et que donc, plus on crie en aigu, plus le périnée se contracte. Et donc, moins il y a de chances que le bébé passe. Et plus on relâche la mâchoire, plus on fait un son grave. Et en plus, qu'il y a une résonance dans le bassin et plus le bébé peut passer. Donc voilà, elle nous faisait des rappels ainsi. Et puis c'était sympa, des mamans passées pendant les cours, nous raconter leur accouchement. Donc il y avait cette notion vraiment de sororité qui était là. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais enceinte, j'avais pas d'autres amies enceintes. Ça peut arriver, ça, c'est sympa quand on est...
Oui.
Avec d'autres amis ou de famille. Bon, là, c'était pas le cas. Donc, ça me permettait aussi d'être dans mon univers, en fait. Donc il y a eu cette préparation, il y a eu l'acupuncture évidemment tous les mois, j'en faisais déjà avant, et mon amie acupunctrice m'a suivie donc tous les mois, et à la fin j'avais même la sage-femme qui me faisait de l'acupuncture, elle était à la maternité, Delila, bon, elle n'a pas été là le jour de mon accouchement, mais ça aurait pu. Donc l'acupuncture, c'est vrai que comme je te l'expliquais, on travaille vraiment sur le corps et l'esprit. Donc ça peut accompagner toutes les douleurs, hein, ça peut être les nausées, les sciatiques, etc. Et où les émotions qui remontent. En autre préparation, il y a eu l'aptonomie, qui était une préparation, là pour le coup, vraiment avec le papa. Parce que sinon on peut pas faire les séances, enfin le papa, après ça peut être avec si c'est deux mamans, avec deux mamans, enfin mais voilà, il faut que ce soit les parents. En l'occurrence pour nous, on nous a conseillé une psychothérapeute, donc, mais ça aurait pu être une sage-femme, hein, ça aurait pu être un autre professionnel de santé. La fréquence était à peu près une fois par mois également. Et au début, donc, c'était de rentrer en contact avec le bébé, poser les mains sur le ventre. On avait beaucoup d'émotions qui remontaient, c'était super chouette. Et à la fin de la grossesse, surtout, elle nous a préparé tous les deux à diverses positions pour l'accouchement, pour éviter les douleurs, en fait, ou les amoindrir. Et aussi sur la façon dont on pouvait accueillir notre bébé. Donc, c'était entraîné à l'accueillir. Donc, c'était une période assez... Les derniers étaient assez marrants. Ouais, c'était drôle à s'entraîner.
Et toi, tu avais fait toutes ces recherches, justement, tu disais au début de l'épisode, généalogique. Et tu avais étudié le livre dont tu parlais avec « Tu accoucheras dans la douleur ». À aucun moment, tu t'es dit... que potentiellement t'y arriverais pas, ou t'étais dans quel état d'esprit en fait, même si tu savais donc que tu pourrais avoir accès à la péridurale?
Non, j'ai eu des doutes, bien sûr. C'était en ça où le champ prénatal, l'acupuncture, l'aptonomie, de pouvoir échanger, verbaliser, exprimer mes peurs, exprimer mes doutes, pleurer. c'était super important. Si, bien sûr. J'étais pas du tout certaine, en fait. Et puis il y a d'autres peurs, il y a plein de peurs qui remontent, enfin plein d'émotions qui remontent quand on est maman. On dit mince, si mon bébé a un problème. Je me souviens un examen de contrôle avec la gynéco où elle me fait l'écho et puis elle me dit. Ah là, j'ai un petit doute en fait. Bon, je pense que ça va aller, mais il y a une excroissance là au niveau du col, donc je sais vraiment pas. Et en même temps, elle était incapable de m'expliquer anatomiquement à quoi ça correspondait, mais elle m'a amené quand même cette once de doute. Je suis sortie. Et d'être médecin, des fois, ça peut être pire ou pas. Enfin, et je suis sortie de ce rendez-vous, je me suis assise sur la chaise à côté de la porte et pendant une heure et demie, je pense que j'ai pleuré, j'étais effondrée. Et puis bon, après l'examen suivant, il n'y avait plus de cette problématique-là et finalement qu'on n'était pas une. Mais en tout cas, j'avais des peurs, des doutes. Je me souviens aussi me projeter quand même positivement sur le moment.
Ouais.
Ouais.
Les projections du...
Positives, ouais. Ouais. De me dire, bon, allez, la maternité, ok, sur le chemin, ça va bien se passer.
Ça sort toutes les petites étapes. Ouais.
Et ce qui m'avait aussi aidé pendant la grossesse, c'était de voir le film Orgasmic Birth. Et c'était une amie, j'en parle dans le livre, qui pratique... la technique de Blandine Calais-Germain sur les mouvements du périnée. Donc là, elle faisait ça, je la suivais dans ses cours. Et elle m'avait conseillé de regarder ce film. Et dans ce film, on voit une femme qui accouche, alors elle vraiment dans l'extase et dans l'orgasme, et de la voir, ça en crée une réalité en fait. De même dans le film Le Premier Cri, je ne sais pas si tu l'as vu.
Non.
Alors pour le coup, lui, je l'avais vu vraiment longtemps avant et j'avais pleuré en visionnant ce film. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai pleuré. À l'époque, comme j'avais pas encore tous les petits points là, de tous les petits cailloux rassemblés de la maternité, j'avais pas compris, mais maintenant je sais pourquoi. Et de même, tu vois une femme accoucher avec des dauphins, bon, d'autres accouchements qui sont plus difficiles, mais de voir des accouchements simples, doux, beaux, bien moi ça m'avait vraiment inscrit dans cette réalité, dans ce possible-là. Parce que, quand même, au-delà de l'inconscient, est quand même clairement véhiculé aussi une vision difficile de l'accouchement. Dans les livres, dans les films, c'est un peu comme l'acupuncture, quand les gens viennent me voir et que je leur pose que 2, 3, 4 ou 5 aiguilles, ils ne comprennent pas parce qu'en fait eux ils ont l'impression qu'ils vont être comme un hérisson avec plein d'aiguilles dans le dos, ça fait super mal. Et non, pas forcément.
Et alors comment s'est passé le jour J?
Le jour J, il a duré presque 24 heures en fait, avec le pré-travail. D'abord, j'avais quasiment pas eu de contraction pendant la grossesse. Donc finalement, quand c'est arrivé, j'ai reconnu cette douleur que je ne connaissais pas. La phrase est un peu bizarre, mais on dit. Alors l'accouchement était prévu 2 semaines plus tard. Mais bon, on sait bien que le dernier mois, tout peut arriver en fait. Enfin, même avant, mais particulièrement au 9e mois. Voilà, d'abord une contraction toutes les heures. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment intériorisée en fait. J'ai commencé à vraiment couper avec l'extérieur, couper le téléphone. J'ai envoyé quelques messages à des amis mamans, à leur demande, hein, pour être vraiment reliée. Et ça a été très doux. Et puis surtout, dès que je mettais en application les positions qui me convenaient et les sons graves, la douleur de contraction, elle passait. Alors, il fallait que je mette en application tout de suite. C'est-à-dire que si dans le millième de seconde, je le faisais pas et que je commençais au bout de 2-3 secondes, c'était beaucoup moins efficace déjà.
Parce que là, t'es arrivée à la maternité et t'as été en salle nature.
Ah non, ça n'est pas du tout passé comme ça. En fait, on a eu donc le fameux pré-travail donc, qui était en journée, avec une contraction par heure. Ensuite, en fin d'après-midi, on est parti se promener, marcher. Et puis en rentrant, les contractions se sont rapprochées. J'ai pris un bain. Bon, là, donc tout allait bien. Et puis, vers minuit, une heure, mon conjoint commençait en fait à stresser qu'on reste à la maison, et donc on appelle la maternité nous dit bon, venez d'ici une heure à peu près. Donc c'était très bien parce que c'était la nuit, donc pas d'embouteillage à Paris. Donc on est arrivé vite à la maternité, alors oui, c'était une nuit de pleine lune, est-ce que ça joue, mais en tout cas il y avait beaucoup d'autres mamans arrivées avant moi. Si bien que toutes les salles d'accouchement étaient et de consultation, les deux en fait, hein, étaient déjà prises, donc il n'y avait pas de place. Donc on m'a demandé d'attendre au bout d'un couloir. Et j'avais une sage-femme qui m'avait dit d'anticiper en fait, de pouvoir créer ma bulle où que je sois, quel que soit l'espace. Donc... j'avais amené un tapis de yoga, mon gros ballon, des tissus. J'avais pas amené de poste de musique, j'aurais pu, hein, parce que ou des enceintes maintenant, mais non, j'ai pas fait d'ambiance dance floor dans le couloir. Mais bon, donc je me suis créée cet espace-là, je me suis mis à quatre pattes dans le couloir et je... Et pourquoi en fait ? Parce qu'en fait, une fois arrivée là-bas, en fait, de me retrouver dans cet univers, d'entendre les autres femmes crier et de ne pas avoir d'espace, ça m'a vraiment aidée. Parce que là, j'ai commencé en fait à rentrer dans la peur et à nouveau à rentrer clairement dans la peur. Donc, tac, je me suis créé cet espace. Et j'ai pu re-rentrer dans ma bulle, j'ai pu re-gérer à nouveau. Et puis, la notion du temps, je l'ai peu, mais peut-être une heure ou deux après, on nous a proposé une salle de consultation. Et là, la sage-femme m'examine et me dit qu'en fait, je suis très peu dilatée. Et très mauvaise nouvelle. Moi, j'étais sûre que j'avais super bien avancé, que j'étais sur la fin, que j'étais à 7 ou 8 et que dans une heure, hop, c'était fait. Et je ne sais plus, mais non, maintenant, c'est que je suis à 2, quoi. et en plus, là, donc ça me déstabilise. Donc, je pense que le fait de rebouger, rechanger de place, en plus, c'est dans une salle de consultation, donc même pas la salle d'accouchement, enfin bon, ça peu importe, mais donc... qu'elle m'examine, qu'elle me fasse le monitoring avec le son du bébé qu'on entend à fond. Et là, en fait, là, je suis vraiment tombée dans les douleurs de contraction vraiment hyper, hyper dures, vraiment, vraiment insupportables. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je tente encore un peu, mais je... C'est horrible, quoi. Je vais pas pouvoir lutter, en fait, longtemps. Et puis j'essaie de me rappeler les phrases des sages-femmes qui te disent « Sors sur la vague ». Il n'y a pas de vague, là. Moi, j'ai l'impression d'avoir un crabe, en fait. C'est un crabe dans l'utérus. Et puis, finalement, dès que la sage-femme est partie, en fait, j'ai enlevé le son du monitoring, déjà. Et là, le mental allait, mais dans tous les sens. Donc, effectivement, je revoyais cette femme d'Orgasmic Birth et je me disais, mais regarde, rappelle-toi, elle, elle y arrive. Et puis, je me disais, mais en fait, je m'en fous complètement qu'elle y arrive. Parce qu'elle y arrive, comme moi, je dois y arriver. Bon, cette guerre du mental. Et finalement, ce qui m'a aidée à ce moment-là, à remonter vibratoirement, à remonter dans mon espace, malgré tous les outils que j'avais déjà mis en place, ça a été à nouveau de la visualisation, de dire mais qu'est-ce qui est beau pour toi, qu'est-ce qui est beau pour toi, et de me brancher sur une image, en l'occurrence c'était des arbres, et de faire une technique, mais alors c'était pas du tout dans le cadre de la préparation à l'accouchement, mais que j'avais apprise dans des méditations dites actives, en fait, où quand on veut se défouler, et on fait la notion du faux langage, on fait... C'est-à-dire qu'on veut sortir tout ce qui nous passe par la tête, mais pas forcément avec des vrais mots. Et en fait, ça m'a super aidée. Parce que je suis vraiment partie là-dedans. Et je crois que je me suis mise presque dans un état de transe, en fait, à force de sortir. Et là, j'ai réussi à couper le mental, réussir à couper la peur, réussi à me dégager de tout. Et à rebasculer en fait dans mon espace.
Et à quel moment d'ailleurs la sage-femme qui s'occupe de toi justement casse un peu toutes ces vibrations?
Donc il y a eu l'arrivée à la mat, il y a eu ce moment-là, et c'est vrai que donc là on est resté longtemps seul dans la salle. Je pense que comme ils voyaient qu'on gérait assez bien, en fait, ils se sont dit bon. Enfin, ça, c'est ma projection perso, finalement, ou peut-être qu'ils étaient débordés dans les autres salles. Enfin, en tout cas, on les a pas revus pendant quelques heures. Je dirais 2 heures, peut-être. La poche des os s'est rompue. Et puis, à un moment, la sage-femme est arrivée. Donc ça, c'était une autre. Et elle me dit, la salle d'accouchement où il y a la baignoire s'est libérée. Si vous voulez y aller, on peut y aller. Moi, j'étais vraiment déjà vraiment dans mon espace, de me dire de retraverser le couloir, repartir là-bas. Et bon, en même temps, je me dis, allez, ok, on essaye. Et sincèrement, Shane, je me souviens à peine d'avoir traversé ce couloir, tellement j'étais déjà dans un autre état. Là, pour le coup, j'étais vraiment baignée d'ocytocine, endorphine, de bien-être, de confiance. donc, bon, j'y vais tout doucement. Et donc, parce que j'ai vu que deux sages-femmes, une qui était très douce et une autre. Et à ce moment-là, donc une autre sage-femme arrive et me dit, donc elle me remet le monito, elle me demande de me mettre sur le dos, sur une table, alors que depuis le début, moi, je suis quatre pattes, appuyée la tête sur mon ballon avec mon bassin qui fait des grands 8, mais je ne contrôle même pas le bassin qui fait des grands 8. Hein. D'ailleurs, moi, j'étais sûre que j'accoucherais accroupie. Ou debout, enfin mais pas du tout dans cette position là, pas du tout avec mon bassin qui ferait un grand 8. Et donc elle me demande en fin d'accouchement de me mettre donc de changer de salle à pied et de me mettre sur le dos sur la table d'examen avec le monito, et je refuse en fait, je dis ben non, en fait non, moi je vais bien et je ne vais pas me mettre dans cette position. En plus, je savais très bien que d'être allongée sur le dos, ça bloquerait l'ouverture de mon bassin et mon sacrum. Donc, puis spontanément, j'avais pas envie. Mais elle ne lâche pas, moi non plus. Donc, bon, fallait quand même faire ce monito. Donc, j'accepte et je me mets en position pont de yoga sur la table d'examen pour faire un espèce de compromis entre ce qu'elle veut et ce qui, moi, me fait du bien. Et à ce moment-là, elle se rend compte que j'ai des aimants sur mon corps que j'avais positionnés sur des points d'acupuncture pour être dans mon autonomie, en me disant bah, si j'ai pas de sage-femme qui fait de l'acupuncture, j'avais pas demandé à mon copain qui n'est pas acupuncteur de me poncturer. Puis bon, les aiguilles, ça fait, enfin, c'est quand même particulier, donc je m'étais mis des aimants en fait pour aider le col à s'ouvrir. Et donc là, elle me dit ah, ça sert à quoi les aimants? C'est pour ouvrir les chakras? Et c'était tellement inadapté en fait qu'elle me parle comme ça à ce moment-là. Je l'ai regardée d'un. Alors, c'était plutôt le témoignage là de mon conjoint qui m'a dit: mais tu l'as regardée en lionne. Et j'ai tendu le bras et la main, je lui ai montré la porte et. Et j'ai même pas dit un mot en fait. C'était: mais toi tu sors en fait. Ouais. Tu n'as juste rien à faire là en fait. Et elle est sortie. En fait, je pense que j'étais tellement déterminée qu'elle est sortie. Et effectivement, j'ai conscience que probablement, si je me suis permise d'avoir cette action-là, c'est parce que je suis médecin. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout intimidée. Alors même si moi, je n'avais jamais travaillé dans cette structure, dans cette maternité, je ne connaissais aucune des sages-femmes qui étaient là ce jour-là, enfin aucun membre de l'équipe. Mais c'est vrai que la blouse blanche, le côté blouse blanche m'était familier. Et donc oui, c'était tout à fait naturel de lui dire de sortir en fait. Et donc voilà, malgré cela, je ne suis pas du tout retombée dans le champ de la douleur. Je suis vraiment restée dans mon bien-être. Ouais. Je crois que j'étais profondément bien en fait et déterminée. Et puis, elle avait dit, vous gardez le monito 20 minutes, au bout de 20 minutes, pour aller dans l'eau. Donc là, j'ai demandé à mon conjoint de surveiller les 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, j'ai enlevé le monito. Elle n'était pas revenue. Enfin, personne n'est revenu, d'ailleurs. Et en fait, une autre sage-femme m'avait dit que si on avait la possibilité d'avoir la baignoire, que le père amène aussi son maillot et qu'on aille tous les deux dans l'eau. Donc je lui ai dit, viens. Donc c'est ce qu'il a fait. Et on a été tous les deux dans la baignoire d'eau chaude. Alors là, c'était juste génial. Déjà d'être dans cet état de bien-être absolu. Et ensuite avec l'eau, ouais, c'était vraiment l'extase. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux.
Vous vous parlez à ce moment-là avec le papa
Très peu. Franchement, il a vraiment été en présence, j'allais dire, de protection et de sécurité. Mais à partir du moment où on a été à la maternité, où je suis rentrée dans ma bulle, j'étais... Non, J'étais juste en reliance avec mon corps, ce que je vivais, l'accueil de mon bébé, déjà la gestion des douleurs. Déjà, il y a eu toute cette première étape de avec moi-même, en fait, avec mes pensées, avec ma douleur, avec mon corps. Et j'avais pas du tout envie que qui que ce soit me parle, me touche. Je sais hein, que certaines femmes aiment être massées, moi pas du tout, mais pas du tout. Au début, je lui ai demandé si un peu d'homéopathie, mais à partir du moment où j'ai dépassé la douleur, non, j'étais dans mon espace. Et d'ailleurs, lui-même, il me l'a dit, il était hyper impressionné. Il m'a dit, on avait l'impression d'une louve, d'une lionne. Et lui-même était impressionné, en fait. Mais comme il était préparé psychologiquement à potentiellement me voir dans cet état-là, il l'accueillait, en fait. On avait vraiment été dans cette démarche. Et je pense que c'est super important que les parents aient cette discussion. J'ai une amie, par exemple, qui s'était super préparée à son accouchement. Et son conjoint lui faisait totalement confiance. Mais pour autant, lui ne s'était pas préparé. Puisqu'en fait, il était tellement certain qu'elle allait super bien y arriver. Et sauf que lui, à la dernière minute, en fait, il a paniqué. Et il l'a déstabilisé. Donc voilà, c'est important que ce soit un travail réellement d'équipe. Quitte à être... sinon, si l'autre, le partenaire ou la partenaire ne sent pas d'être là, ok, c'est ok. Mais en tout cas, d'être dans cette préparation psychologique de ce qui peut... Enfin, d'accueillir ce changement de la maman au moment de l'accouchement. C'est clair qu'on vit un moment... incroyable. Enfin, on a quand même un corps qui s'ouvre pour accueillir un être humain. Ça, c'est incroyable.
Alors, quand est-ce qu'est arrivé ton petit être humain à toi?
Et donc, le petit être humain, on a été dans l'eau. Là, à nouveau, c'était très doux à ce moment-là. En plus, c'était tôt le matin. Il y avait un merle qui chantait. Et puis, je me disais que depuis le printemps, ce merle chante. Enfin, en tout cas, j'entendais un merle chanter à la fenêtre. Et ça a été très vite, en fait, je pense, une fois que j'ai été dans l'eau. D'un coup, en fait, j'ai vraiment senti, boum, le bébé descendre au niveau du coccyx. Je l'ai dit à mon conjoint, mais là c'était très doux, vraiment on était dans l'eau, c'était très calme. Et je me suis, à ce moment-là, en fait il est né, j'étais en position à l'anglaise sur le côté dans l'eau.
Et les sages-femmes étaient revenues?
Ah non, il n'y avait personne. Et donc là j'ai fait une première grosse poussée. Avec un son, mais la prof de chant nous l'avait dit, hein, c'est vraiment très archaïque. Et c'est vrai que c'était très très archaïque, avec un son, mais incroyable. Donc il y a eu...
Très grave.
Hyper grave, et puis elle avait dit, vous ne pourrez pas le refaire. Et c'est vrai, moi j'ai essayé de le refaire chez moi.
C'est le son d'une seule fois.
Donc il y a eu cette grande poussée. Puis... une deuxième poussée. Et là, en fait, la sage-femme m'a entendue. Donc, j'entends « elle accouche, à l'une !» Et elle arrive, elle me voit, et elle me dit « Non, mais là, en fait, vous sortez de l'eau, vous accouchez sur la table d'examen. » Et à nouveau, je refuse. Enfin, à nouveau. Je dis « Non, en fait... je crois que je pars pas trop dans les explications. Non. Puis elle voit que je suis bien. Puis elle voit qu'on est bien. Et puis elle, c'était la sage-femme qui était la première, celle qui était vraiment douce et cool. Et elle s'approche de moi, elle me dit, ok, bon ben, prends ton temps, c'est ok. Et puis je chantais les petits cheveux là de mon bébé. Et puis il y a eu ce moment, je sentais que la prochaine poussée, ce serait intuitivement la bonne ou la dernière. Donc il n'y a que trois poussées grosses, hein. Et il y a eu cette espèce, alors je sais plus, mince, le mot m'échappe, mais ce moment où j'ai eu besoin de cet espace entre juste avant de faire sa dernière poussée, de me dire ça y est en fait, et d'être vraiment dans cette conscience là de cet accueil. Donc je me suis laissée cet espace, et puis il y a eu cette troisième poussée et la tête de mon bébé, puis son bras, et à ce moment-là la sage-femme a tendu les bras pour l'attraper, et ce qui m'est venu en automatisme, c'était vraiment les gestuels avec lesquels on s'était entraîné au cours de l'autonomie, et de me dire mais non, en fait c'est moi qui l'accueille. Donc j'ai attrapé, et là, c'était très beau parce que j'étais allongée sur le papa et on était tous les trois dans les bras les uns des autres, en fait
dans l'eau.
Mmh. Ouais.
Magique.
Ouais. Et la sage-femme et l'auxiliaire, nous ont remerciés. On dit merci pour ce beau moment. C'était très touchant. Mmh. Mmh. Bon, après, j'ai obéi. Ils m'ont dit, on reste pas longtemps dans l'eau, il y a un risque d'hémorragie. Mmh. Et j'ai obéi. Donc, on est sortis avec le bébé, le cordon. Elle y avait mis un petit bonnet quand même sur la tête. Et...
Ouais. Et alors, comment ça se passe après pour toi, physiquement parlant déjà
Alors, j'ai eu une petite déchirure, donc une gynéco est venue, m'a fait 3 points, mais là, de même, hein, j'étais tellement baignée d'endorphines, d'ocytocine, j'ai quasiment pas de souvenir en fait de ce passage-là, à peine non plus du placenta, vraiment, ouais. C'est le papa qui a coupé le cordon, et puis en fauteuil on nous a descendu dans une chambre, et on était d'abord que tous les trois, c'était hyper calme, j'avais le papa de mon fils qui dormait par terre sur mon tapis de yoga, mon bébé qui dormait aussi, et moi de les regarder et me dire mais c'est incroyable ce qui vient de se passer, et juste incroyable.
T'étais dans quel état, toi? T'étais épuisée ou pas du tout encore?
Ah non, j'étais totalement perchée. Émerveillée. C'était pas perché. c'était dans cet état de plénitude et d'émerveillement, de joie, mais de joie pure et simple. Ouais, d'extase. t'es en extase.
Ouais.
Après le corps, eh bien, pour répondre à ta question, je suis vraiment redescendue de cet état d'extase. Donc, mon bébé est né à 7h07, et dans la nuit qui a suivi. Quand je me suis levée pour le changer, et je me souviens de sentir des gouttes sur mon pied, et je me dis, mais ils ont des fuites. Non.
Le plafond.
Bah, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, réaliser que bah non, c'était ma montée d'eau et que c'était mon lait qui coulait. Donc, c'est pas du tout une fuite. Et là, je me suis sentie vraiment comme un pantin désarticulé. Enfin, j'avais vraiment cette sensation de pantin désarticulé. C'est vrai que. On conseille souvent de porter des ceintures lombaires, et moi ça m'a fait un bien fou de le porter après l'accouchement. À J3, comme dans les livres, je pleurais dans mon lit, bien que j'allaitais, donc ça diminue quand même. La déchirure avait été. Quand la gynéco avait recousu, un point avait été trop serré, donc pendant 2-3 jours j'étais pas à l'aise, et une des sages-femmes m'a enlevé un des points. Voilà, en fait, ça a été.
Et alors, t'as décidé d'allaiter ?
Oui, alors je m'étais dit si ça marche et que j'y arrive, c'est bien, si j'y arrive pas. Tant pis.
Ouais. Non, parce que tu disais que dans la lignée de ta famille,
c'est vrai.
Personne n'avait allaité.
C'est vrai. Oui, puis c'était important pour moi pour plein de raisons en fait qu'on connaît hein, sur les bienfaits. Mais voilà, je me disais si j'ai des crevasses, c'est compliqué, j'insisterai pas. Bon, c'est vrai que les toutes premières tétées sont quand même assez sensibles. Et puis au bout de 2-3 jours, ça va. Et puis après, l'allaitement il s'est super bien passé. J'avais même beaucoup trop de lait en fait. J'aurais pu être une vraie mère nourricière. Je me disais, dans une autre vie, je pourrais. J'aurais pu être nourrice à une autre époque. J'ai même pensé de tirer mon lait pour le donner au lactarium. Et alors, par contre, ça, j'ai détesté le tire-lait électrique. J'ai essayé, je supportais pas. Et même le manuel, j'aimais pas. Donc j'ai pas pu, non, j'ai pas donné mon lait du coup. Mmh. Et de toute façon, en plus, ça me fatiguait trop. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une tétée, du coup. Mon organisme, mon corps refaisait du lait, et donc en fait de surstimuler, c'était sans fin. Et j'ai allaité pendant 9 mois.
D'accord. Mm-hmm. Et alors le retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Alors on est resté pendant 3 jours à la maternité. Alors, ce qui était un peu difficile, c'était d'être en chambre double, et en même temps j'étais très contente moi, d'être à la maternité, de prendre mon temps. Ah bah c'est au début, pour le coup moi j'étais plus du tout docteur, hein. Enfin d'être avec un petit bébé, j'étais comme toutes les autres. Je crois que pour ce qui est, finalement, autant je me voyais pas accoucher dans mon appart, mais autant j'y étais très bien dans ce petit atelier d'artiste qui est des voisins qui passent pour... Ben, amener de la joie, des moments où on est fatigué, où on demandait si on avait besoin de quelque chose, où je me souviens, les 3 premiers mois, en fait, j'avais beau faire toutes les techniques de la feuille de chou écrasée, de tenir son bébé sur le ventre, enfin, il avait des coliques du nourrisson en fin d'après-midi, et je pouvais faire, en fait, il n'y avait que le balancer, en fait, qui le soulageait. Et donc, on avait des relais, voilà, comme ça, de voisins qui passaient. C'était plutôt chouette. Mais je me revois un jour passer devant un magasin et voir mon reflet avec mon bébé et la poussette et de me dire c'est moi en fait là. C'est ouais, vraiment cette image. Donc le rôle de mère, déjà je l'avais travaillé, je pense. Pendant la grossesse, mais même, je te dis, même à la dernière poussée, au moment de l'accouchement, c'est revenu, et puis en fait, ça revient. Enfin, c'est une grosse remise en question.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, de partager justement ton expérience de l'accouchement physiologique ? Oui, oui.
Eh bien, pour l'avoir vécu, en fait, je me suis dit, mais il faut que les femmes soient au courant de ça, hein, qu'elles sachent que finalement, oui, c'est possible, c'est accessible à toutes. C'est un vrai cadeau, en fait, de savoir que c'est possible, tout simplement. Et parce qu'il m'a été plus facile de l'écrire que de le partager. Parce qu'au début, oralement, quand j'expliquais en fait que j'avais accouché au-delà du sans douleur et que j'avais accouché même dans l'extase, que ce soit homme ou femme en fait. Et du coup, de ressentir leurs émotions, quelque part, ça salissait aussi mon expérience.
C'était quoi ? Ils ne croyaient pas ? Ils pensaient que c'était impossible ?
Ouais. Non, c'est pas possible. Ouais, c'était assez dur en fait de se dire que des gens étaient à ce point-là formatés presque. Et donc, d'abord, je l'ai écrit aussi parce que je voulais me souvenir, me rappeler de ce moment-là pour qu'il reste intact. Donc, je l'ai écrit très vite, peu de temps après l'accouchement. Aussi pour mon bébé. Et puis, en fait, avec le père de mon fils, on s'est séparés quand il avait 18 mois. Et donc là, j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper, d'envoyer à des éditeurs. Il fallait que je recrée ma patientèle, que je m'occupe de mon bébé. Enfin, bon, voilà. Et donc le projet, je l'ai même presque oublié en fait. Et puis en 2019, il y a eu le rapport que Marlène Schiappa avait demandé sur les violences obstétricales. À nouveau, beaucoup de documentaires, de paroles qui se déliaient à ce sujet-là. Et voilà, en écoutant une émission sur France Inter, je me suis dit, mais en fait, j'ai aussi une réponse à ça, en fait. Et donc, en fait, j'ai repris le livre, je l'ai relu. J'ai tellement d'émotions en relisant ce moment extraordinaire de vie. Et je l'ai envoyé à des éditeurs comme une bouteille à la mer en me disant si c'est accueilli, tant mieux. Et puis ça a été accueilli. et j'en suis ravie aujourd'hui. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie ouverture d'esprit sur cette expérience-là. On est de plus en plus nombreuses à partager. Alors peut-être pas beaucoup dans l'extase encore. Mais en tout cas du sans douleur ou un petit moment d'orgasme au moment de l'accouchement, il y a quand même de plus en plus de femmes qui osent le dire aussi, parce qu'en fait on s'était rendu compte, même un sexologue qui a fait une étude là-dessus, en fait, qui s'est rendu compte que des femmes n'osaient pas le dire.
Oui.
Et on en revient toujours à notre fameux péché des chairs, la bouclée, c'est-à-dire que même quand tu le vis, eh bien, oui, non, tu n'as pas à le vivre comme ça. Ça va loin, en fait. Et donc, plus on sera à le dire, à l'exprimer... Moi, l'idée, c'est pas qu'on dise de moi... Enfin, que je suis extraordinaire, ce que j'ai vécu est dingue. C'est pas du tout l'objectif, en fait. L'idée de ce témoignage, c'est que, comme moi, de voir cette femme accoucher dans le film, eh bien, que je puisse être... ce petit relais positif pour les futurs parents.
Oui, dire que c'est possible.
Oui. Et que les papas se disent que c'est possible aussi, ce sera très positif pour les mamans.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Alors, ce que ça a changé chez moi ça m'a enlevé une part de naïveté et d'insouciance. Et ça m'a apporté, c'est certain, une grande maturité. Une force que je puise régulièrement. Et à chaque fois, je me demande... d'où j'arrive à trouver encore cette force de tenir, de me relever, d'être patiente.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Alors, donc j'ai accouché à Paris, mais après j'ai vécu en banlieue. Et donc, moi, je suis redevenue maman parisienne depuis 2017. Donc, en même temps que les manifestations des gilets jaunes, les grèves des transports, les grèves des profs, le confinement. Donc, quand même
ouais, bel enchaînement.
C'est ça, assez particulier. Et ben, pour autant, moi, ça m'a simplifié la vie de revenir à Paris. Parce que je fais tout à pied, j'avais travaillé à pied. Il y a des petits squares où il y a une bonne ambiance, on se retrouve. Et avant, quand il fallait que je programme une demi-journée pour aller boire un café avec des amis, là c'est plus simple.
Quel est ton endroit kid-friendly préféré à Paris ?
Un seul ?
Ou 10.
Moi j'aime. Alors tout dépend du moment de la journée et avec qui on est et ce qu'on a prévu. J'aime beaucoup les Tuileries. C'est vraiment super sympa. C'est beau. Les enfants ils peuvent faire jouer avec les petits bateaux, faire du trampoline. Il y a le manège. Il y a les petits cafés, il y a le parcours avec les haies en labyrinthe. On est quand même devant le Louvre, c'est juste magnifique. C'est superbe, j'adore. Le parc floral, qui est aussi génial pour tous les âges d'enfants, en fait, avec plein de parcours différents. Où ils peuvent proposer des concerts aussi, sur l'air, donc c'est vraiment chouette. Et en dernier endroit, enfin un autre endroit, Ground Control, donc là on est dans une autre ambiance encore. Mais voilà, c'est, je dirais cela déjà. Ouais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors les projets rien que pour moi, en ce moment là, ils changent tout le temps, surtout depuis la sortie du livre et dans le contexte actuel où tout change tout le temps. Donc un projet pour moi simple à court terme, dès que possible, aller marcher au bord de la mer.
Et en famille?
Et en famille, oui, sans grande prétention non plus à court terme. En fait, je suis taureau, mon père est taureau, mon fils est taureau, enfin on est pas mal de taureaux dans la famille, donc ça va être de se retrouver dans un bois et se faire un petit pique-nique d'anniversaire ensemble.
Merci beaucoup Marie-Pierre.
Merci Shane, avec plaisir et j'espère que notre podcast apportera un regard optimiste et joyeux pour la mise au monde des enfants à venir.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie-Pierre, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 92 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.